Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de CHIZ 94.3. Mon nom est Annie-Pierre Brunel et je serai votre animatrice pour cette émission. Je suis accompagnée d'Alexandre Prince à la co-animation. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Et pour la prochaine heure, on va avoir le plaisir de nous entretenir avec Katharina Niemeyer. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour l'invitation.
Katharina Niemeyer est professeure en théorie des médias à l'Université du Québec à Montréal et directrice du CELAT-UQAM. Ses travaux de recherche portent sur les rapports entre médias, technologie numérique, temporalité, mémoire et histoire. On la reçoit aujourd'hui pour nous parler d'un chapitre du livre dont le titre pourrait se traduire de la manière suivante « Estimation de nostalgie, exploration pluridisciplinaire d'une émotion durable » paru très récemment à la Bristol University Press. La nostalgie dans les médias semble plus que jamais présente, on la voit, on la ressent dans les films, les séries télé, elle est utilisée par les publicitaires puis aussi les politiciens pour vendre et convaincre. Donc, pour introduire le sujet, comment est-ce que vous définiriez la nostalgie? Puis, ce serait quoi l'origine de ce concept-là?
C'est une très grande question pour commencer. Ben, je dirais, après y avoir réfléchi depuis plusieurs années avec des collègues étudiantes et étudiants aussi, on pourrait vraiment dire que, je reviendrai sur l'étymologie tout de suite après, mais que la nostalgie, c'est vraiment une émotion, mais aussi une pratique. Et on reviendra sur ça aussi par rapport à son évolution, en fait, du concept. Mais on pourra dire que la nostalgie navigue entre souvenir et oubli, idéalisation et créativité. Puis la nostalgie rappelle aussi les temps et lieux qui ne sont plus accessibles ou qui ne l'ont jamais été par ailleurs. Donc, elle peut aussi désigner, en fait, le désir de retourner à une époque passée que nous avons vécu et qu'on peut regretter, mais ça peut aussi être une époque que l'on n'a pas vécue, dont on peut être nostalgique. Ça peut aussi être le regret d'un passé qui n'a jamais été et qui aura pu être, ou encore un avenir qui jamais ne sera. Donc, c'est un peu comme ça que j'introduis une forme de définition quand je donne des cours sur la nostalgie ou même dans les conférences ou comme lors de notre rencontre. Et puis, ce qui est important aussi à souligner, c'est que le sentiment nostalgique n'est pas empreint du seul retour vers le passé, mais articule aussi bien d'autres temporalités. L'expérience de la nostalgie se passe au temps présent et puis concerne aussi souvent l'avenir. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis pour celles et ceux qui ne se sont jamais trop intéressés à la nostalgie, c'est important quand même de rappeler que le mot en tant que tel est un néologisme en fait qui a été créé de toutes pièces par Johannes Hofer. C'était un médecin suisse. C'est au XVIIe siècle et pour être plus précis, c'était en 1688. Qu'il a créé en fait le mot nostalgie à partir des racines grecques nostos, donc retourner chez soi, et algia, tristesse ou douleur. Mais ça n'empêche pas évidemment que, comme dans l'Odyssée, on voit déjà aussi ces sentiments en fait de nostalgie qui sont là mais qui ne sont pas décrites comme telles. Et puis Hofer, il essayait de décrire en fait un sentiment qui est lié en fait au mal du pays, donc l'éloignement de soi et il a donc créé en fait ce néologisme-là pour mieux en fait expliciter en quoi consiste donc ce mal du pays d'un point de vue des symptômes. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour lui, c'est une véritable pathologie clinique. Donc les gens tombaient malades en fait quand ils étaient éloignés de chez eux. Dans son cas, c'était les mercenaires suisses qui étaient loin de la patrie, qui partaient donc en guerre. Et donc, ça, c'est important à retenir. Donc au départ, la nostalgie, c'est vraiment une question en fait de l'éloignement spatial et pas tout de suite dans l'histoire de la nostalgie une question du temps. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à retenir. Et puis voilà, on pourra en jaser longtemps là des origines. Peut-être ça suffit comme une première réponse à votre question. Puis je reviendrai peut-être tout à l'heure justement aux origines de la nostalgie.
Parfait, bien c'est une excellente introduction et c'est déjà le moment d'écouter notre première pièce musicale de la soirée. Et cette définition là, que vous avez donnée de la nostalgie peut rappeler plusieurs concepts similaires. Entre autres, au Portugal, il y a l'idée de saudade qui est très empreinte là, de cette tristesse, de cette nostalgie-là. Et c'est aussi le titre donc d'une chanson ici interprétée par Cesaria Evora, sur laquelle on se laisse pour le moment. Alors, bonne écoute.
Quem
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur la nostalgie dans les médias en compagnie de Katharina Niemeyer. Alors, dans la première partie du chapitre que vous signez dans cet ouvrage-là, vous faites référence aux médias comme étant le point de passage de la nostalgie. Et cette idée de point de passage, elle tient à la relation qui s'est créée entre les médias et la nostalgie à travers l'histoire. Et il est nécessaire de comprendre cette histoire-là pour comprendre les raisons de l'omniprésence aujourd'hui de la nostalgie dans les médias. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur l'historique de ce lien là, entre les deux concepts?
Oui, bah, ce qui peut être aussi à souligner, vous venez de mentionner la saudade, puis que c'est Alistair Burnett, c'est un géographe qui a montré dans ses études dans les années 2010 que justement la nostalgie, c'est un sentiment en fait qui entre guillemets universel, qui est ressenti de différentes façons dans différentes cultures, mais qui quand même aussi dans les traditions orales quelque chose qui existe. Et puis autrement dit aussi, et je vais répondre en ce sens-là par rapport aux médias, d'abord expliciter ce que j'entends par médias. Donc je suis dans une approche de culture des médias très large, j'ai fait mes études en Allemagne à l'université du Bauhaus, où on a vraiment une approche très culturelle des médias, où on va dire qu'un musée peut avoir des caractéristiques d'un média, la pierre peut l'avoir comme aussi le bois par exemple. Donc c'est vraiment une approche très philosophique de ce que ça, qu'est-ce qui peut avoir une caractéristique médiatique. Et c'est important à savoir avant que j'explicite le lien, parce que donc pour moi, comme pour d'autres chercheurs par ailleurs, les médias ne se résument pas uniquement aux médias dits de masse ou traditionnels comme la presse ou la radio, même si évidemment ils en font partie. Et ce qui est important à retenir, bah, tout à l'heure, j'avais introduit justement ce néologisme médical. Et ce qui est important à retenir là, c'est que Johannes Hofer, déjà au XVIIe siècle, montrait que ce qui pouvait soigner les soldats était en fait soit la promesse du retour, donc l'imaginaire du retour, c'est très important, mais aussi le fait que quand les personnes pouvaient entendre l'accent de leur région, donc ils mettaient les soldats du même endroit ensemble, quand leur montrait par exemple des gravures, etc., donc il y avait déjà un aspect aussi médiatique, là on s'entend, donc des images en fait de là où d'où ils venaient, ils allaient mieux, ces soldats. Donc là, pour moi, c'était une première indication quand j'ai commencé à travailler sur la nostalgie, à me dire, ah ben c'est intéressant parce qu'il y a soit un support médiatique qui aide ou la communication entre personnes qui nous rappelle en fait notre chez-soi, d'où on vient. S'y rajoute aussi d'ailleurs le Ranz des Vaches, c'est un morceau de musique là, qui est très connu en Suisse, qui voilà des Alpes suisses, qui aussi était chanté par les soldats qui étaient malades et qui aidait en fait à surmonter cette souffrance de l'éloignement. Et ça m'a mis sur une piste dans les années 2000 où on nous disait en fait à un moment donné l'avenir, on sera toutes et tous interconnectés, on pourra faire l'amour à distance, je sais pas si vous vous souvenez de toutes ces idées utopiques que pourrait être le web et internet. Et finalement au début des années 2000, je m'étais rendu compte ce qui se passe en ligne ou même avec les applications, c'est pas exactement ça. D'une part, on a vu vraiment une apogée en fait de création de séries télévisées nostalgiques. On se souvient dans les années 2000 de Mad Men, Pan Am, The Artist comme film ou autre, et on voit émerger avec le web 2.0 aussi beaucoup de filtres comme par ailleurs sur Instagram, etc. Et finalement, il y avait beaucoup de choses qui relevaient de la mémoire, puis d'histoire, mais aussi de la nostalgie en lien avec les technologies dites numériques et nouvelles, qui sont pas si nouvelles que ça. Ça, c'est un autre débat, un autre podcast. Mais tout pour dire, je me suis interrogée là, je me dis, mais qu'est-ce qui se cache finalement derrière ces nostalgie qui peuvent paraître esthétiques, peut-être parfois artificielles. Et c'est là où j'ai fait le retour, en fait, dans les travaux originels, en me disant il y a quand même un lien intéressant là à explorer, surtout aussi quand on regarde d'autres littératures sur la nostalgie, comme l'ouvrage phare en fait de Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, début des années 2000, où elle revient plutôt sur en fait la chute de l'Union soviétique entre autres, et puis de l'expérience de la littérature, mais elle parle aussi des médias. Elle montre que c'est vraiment au moment où il y a soit du progrès, soit une crise, que des expressions ou pratiques nostalgiques émergent. Et ça, c'était un autre apport en fait à ce questionnement de voir, comme vous l'avez très bien dit dans votre question, les médias comme un point de passage. Et finalement, ce que font les médias au sens large du terme, c'est que d'une part, les médias peuvent provoquer la nostalgie. Donc, on se souvient peut-être toutes et tous d'une émission de télé qui revient. Ah oui, ça me rappelle mon enfance, etc. Ça peut être aussi une chanson, en fait, qui passe à la radio, comme on vient de l'écouter. Mais les médias sont aussi un espace de création et de projection nostalgique. On pense au cinéma, évidemment. L'écran en soi est vraiment, au sens littéral du terme, un espace de projection fascinant pour toute forme de nostalgie, différentes formes de nostalgie. Et puis, les médias sont souvent aussi nostalgiques d'eux-mêmes. Donc, on voit un peu la célébration autour d'archives. Et là, il y a quelque chose de très important parce que là, la nostalgie peut prendre différentes directions, parfois un peu régressive aussi, mais parfois aussi émancipatrice quand on voit en fait les efforts qui sont actuellement faits et heureusement faits autour des questions de réécriture de l'histoire. Et la nostalgie, en ce sens-là, peut avoir des forces vraiment créatrices, comme l'a déjà souligné aussi Svetlana Boym. Donc, ça peut être comme première réponse là, à ce que peuvent faire les médias. Et puis, c'est vraiment historiquement lié, là, on s'entend. Donc, c'est pas du tout nouveau, ou date pas du 21e siècle.
Vous venez tout juste d'évoquer quelques études qui ont été réalisées sur la nostalgie. Il semble qu'au courant des années 2000, il y a eu un nouveau virage des études sur la nostalgie. Donc, de quelle manière la définition du concept a changé à cette période-là? Puis, quel a été l'impact de ça sur la manière d'étudier le phénomène pour les universitaires?
Oui, c'est une excellente question. Peut-être là aussi, juste pour rappel, je ne l'ai pas dit au début, c'est que quand Johannes Hofer et d'autres médecins, par la suite, ont travaillé sur la nostalgie, il y avait un dilemme parce que la nostalgie était souvent confondue avec la mélancolie, aussi dans les thèses de médecine, et avec la dépression. Et finalement, on n'arrivait pas vraiment à expliquer ou soigner la nostalgie. Donc, à un moment donné, il est sorti du discours médical. Depuis, en fait, c'est vraiment la mélancolie qui est davantage affiliée à la question de la dépression et que la nostalgie est sortie de son discours médical, voilà, au début du XXe siècle, principalement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne cause plus de problèmes. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire des travaux, justement, sur les migrations actuellement, etc. Ça existe quand même toujours. Et ça a aussi amené au fait que la nostalgie est devenu quelque chose qui relève plus de la temporalité que de l'espace. Et on avait en fait justement, on retourne en Suisse là à nouveau, mais c'est justement Rousseau qui pour lui, en fait, on est dans une définition toujours de l'espace, de la souffrance, de l'éloignement, tandis que Kant, pour lui, c'était vraiment une maladie ou une façon de se reconnecter au temps qui n'est plus, donc plutôt à notre jeunesse. Je rappelle ça avant de répondre à votre question parce que c'est très important, parce que justement au tournant des années 2000, il y a dans différentes disciplines, c'est notamment psychologie, géographie, sociologie, qui en appelle à repenser la nostalgie. Il y a une de mes collègues avec qui je travaille beaucoup sur la nostalgie, Emily Keitley, qui avec un collègue, Michael Pickering, justement en sociologie, on dit il faut revoir la nostalgie autrement, voir en fait son caractère performatif, un peu comme Alistair Bennett dans Geographies of Nostalgia, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis aussi des collègues psychologues qui sont à Southampton, dont Christian Saïdikis, Tim Wildschut et d'autres, qui sont en psychologie et qui ont montré que la nostalgie peut aussi être constructrice. Et si on veut voir, il y a quand même vraiment dans chaque discipline universitaire et de façon transdisciplinaire, un grand changement qui s'est donc passé à partir des années 2000. Moi, je le note aussi, entre autres, en lien avec l'avènement du Web 2.0 qui permet justement de rendre visibles des nostalgies qui ne l'étaient pas forcément auparavant ou qui l'étaient en bavant avec des amis. Mais on le voit aussi qu'il y a un changement à ce moment-là par rapport aussi à l'expression et la possibilité justement en ligne d'être davantage militant, de montrer des facettes de l'histoire qui ne sont pas forcément écrites dans les livres. Donc tout ça, ça fait partie en fait de cette mouvance. Et c'est là aussi qu'on va paraître en fait que d'autres formes de nostalgie existent et doivent être reconnues, voire même reconnaître déjà ce que c'était la nostalgie au départ et que c'était pas juste une invention régressive de l'Occident en lien avec la colonisation, même si là évidemment aussi des liens se tissent et sont clairement présentes. Et de ces mouvements-là, dans les années 2000, on est arrivé en fait entre chercheurs de façon transdisciplinaire à dire qu'on ne peut plus voir la nostalgie comme quelque chose de complètement régressif, même si évidemment ça continue toujours à l'être dans certains cas. Quand on regarde l'actualité en Ukraine actuellement et puis les discours de préparer les pieds aux 20 ans de Vladimir Poutine, mais elle a quand même je trouve juste le mot en anglais, donc vous m'excusez. En plus, c'est pas ma langue maternelle, le français. La nostalgie garde en elle comme des caractéristiques qui sont oubliées, qui sont plutôt aussi constructrices. Et une chose sur laquelle on s'entend avec les chercheurs, c'est vraiment que la nostalgie concerne le temps et l'espace et qu'on ne va pas séparer les deux. Donc, ça peut être cette nostalgie individuelle que chacun peut faire l'expérience à un moment donné dans notre vie. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est vécu collectivement. C'est aussi parfois quelque chose, parfois avec un mélange mélancolique qui peut être la force créatrice dans l'art. Et puis, évidemment aussi parfois, et puis vous l'avez dit en l'introduction aussi, plutôt relevé d'une marchandisation parfois négative ou d'un abus nostalgique. Donc, il y a vraiment différentes facettes.
Puis dans tous ces textes-là que vous avez évoqués tout à l'heure, dans toutes les disciplines qui s'intéressent à la nostalgie, on se rend compte qu'au final, il n'y a pas qu'une seule définition de la nostalgie. En fait, il y en a plusieurs types. Et ces différentes nostalgies, si on veut les appeler comme ça, ne vont pas s'exprimer de la même manière selon les différents contextes médiatiques. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les différents types de nostalgie en nous fournissant quelques exemples?
Donc, on pourrait faire un podcast carrément que sur ça, parce qu'évidemment, dans chaque discipline, il y a différentes façons de définir la nostalgie. Disons quand même que la définition de base n'a pas complètement changé, c'est plus de ce qu'on peut comprendre de la nostalgie, ce qu'elle fait, ce qui a changé. Donc, on est plutôt en fait dans une ouverture du concept vers justement différentes définitions, mais aussi applications, voire pratiques. Et dans le domaine donc, des études médiatiques, je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité aussi, ce qui vous intéressait le plus. Il y a différentes formes de nostalgie qu'on peut constater. Je l'ai abordé un peu tout à l'heure. Donc, on peut y revenir que d'une part, les médias peuvent être de par leur contenu, aussi de travail journalistique, hein, tout dépend en fait où on se situe, des émissions télé, des séries télévisées, la musique, etc., peuvent donc être déclencheurs de nostalgie. Donc là, on est dans quelque chose qui relève vraiment d'un passé commun médiatique qu'on a dans une certaine culture, donc un savoir commun qui est aussi parfois lié à l'intertextualité, les conversations qu'on a avec les amis, etc. Et puis, on voit que justement, l'industrie saute beaucoup sur cette forme de nostalgie qu'on peut aussi appeler nostalgie médiatique. On le voit entre autres avec le rétro gaming, donc le retour de jeux vidéo. Et là, ce qui est aussi important à dire, puis ça participera à ce que je vais dire tout de suite, un peu à différentes stratifications, si on veut, dans les définitions, c'est que ce n'est pas uniquement les produits médiatiques ou les jeux vidéo, par exemple, qui auraient pu manquer ou qui appellent à la nostalgie, mais c'est aussi un renvoi, en fait, au temps et espace du passé qu'on a vécu avec des amis, donc des rituels, peut-être, dont on se souvient, ou quand c'est qu'on a regardé telle émission avec des amis, oui, ou que t'es tel balado avec telle ou telle personne, ou peut-être vous, dans l'avenir, vous allez être nostalgique des balados que vous êtes en train de faire pour cette émission. Donc, il y a un peu de tout ça par les médias, oui, je suppose, je ne sais pas, petite nostalgie du futur. Donc ça, c'est déjà ce qu'on peut appeler en fait nostalgie médiatique, mais qui est déclenchée en fait par les médias ou les industries médiatiques en tant que telles. Donc, il y a plusieurs exemples, si vous en voulez d'autres, on peut en jaser avec plaisir. Après, il y a ce qu'on peut nommer la nostalgie programmée. C'est surtout Jérôme Bourdon, mais aussi d'autres collègues, pas dans moi-même, là, mais avec des collègues quand on réfléchit sur ça, qui concerne plus spécifiquement en fait la mise en place, pas juste de rappeler des productions du passé, mais aussi de produire des productions du temps présent qui ont une caractéristique nostalgique. Donc, ça peut être soit, ça peut être des émissions qui sont à nouveau sur l'écran, mais ça peut aussi être des créations du temps présent qui sont une esthétique nostalgique, comme par exemple Stranger Things il y a quelques années. On pense aussi aux films qui sont sortis rien que l'année dernière ou cette année. On avait d'ailleurs fait récemment un podcast sur la question nostalgie à l'écran avec des collègues à l'UQAM avec Figura à l'Observatoire des imaginaires contemporains, où on avait nommé par exemple des films comme Last Night in Soho, le revival de The Ghostbusters, aussi The Power of the Dog et d'autres films qui en fait relèvent de différentes formes aussi de nostalgie qui sont soit esthétiques ou vécues par les personnages principaux dans les films. Donc là, on est parfois dans ce qu'on peut appeler une nostalgie programmée, mais peut-être l'exemple le plus flagrant et le plus connu, c'est la plateforme Netflix, qui carrément, il y a un livre qui est sorti édité par des collègues qui s'appelle vraiment Netflix Nostalgia, où il y a plusieurs chapitres qui s'intéressent vraiment au business de la nostalgie qui émane en fait de Netflix. Donc là où vraiment la nostalgie programmée est carrément en fait une source de revenus. Voilà. Puis un autre élément, c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est vraiment cette idée que les médias peuvent être un espace de projection pour la nostalgie. J'ai donné comme exemple le cinéma, mais on peut noter aussi des réseaux sociaux numériques. On peut regarder, je pense que peut-être vous êtes toutes et tous déjà tombés sur des groupes Facebook avant ou après, Québec avant ou après, Montréal avant ou après, ou encore des groupes historiques, vous êtes en histoire et en communication, où on voit en fait un intérêt de partage très vernaculaire de photographies, en fait, soit de quartiers, d'une ville, de paysages, etc., ou encore sur Instagram, il y a un groupe très actif, justement la nostalgie des années 90 et 2000, qui apparemment a un très grand engouement actuellement. Donc, on voit là aussi qu'il y a quand même une ouverture pour les personnes comme vous et moi de partager différentes formes de nostalgie en ligne. Et à l'intérieur de ces nostalgies-là, il y a encore différentes sous-strates qu'on peut trouver, pas juste la nostalgie des médias passés, mais aussi la nostalgie que j'ai dit au début, en fait, d'un lieu qu'on ne reconnaît plus. Comme par exemple la solastalgie, ça aussi, c'est un concept qui a émergé quand même depuis une dizaine d'années, qui vous connaissez peut-être, et qui est l'éco-anxiété, et qui témoigne, en fait, de la souffrance du temps présent, d'un environnement qui ne se ressemble plus, on sait qu'il va disparaître. Donc, il y a aussi un lien, à nouveau, comme vous voyez, avec l'origine principale ou de base de la nostalgie, l'éloignement, en fait. Mais cette fois-ci, l'éloignement, il n'est pas physique, donc on ne se déplace pas, mais on voit, en fait, le changement en restant sur place. Donc ça, c'est peut-être quelque chose un peu nouveau, quoique ça existait déjà avant qu'on définisse le dérèglement climatique comme tel, qu'évidemment, quand on reste aussi vivre là où on a toujours été, on peut aussi être nostalgique tout simplement de l'environnement qui change, des maisons qui sont peut-être abandonnées, démolies. Donc, il y a là aussi toute la ruinologie. Donc, voilà la question des ruines qui émerge, qui a aussi un très grand engouement en recherche, surtout depuis en fait la crise financière et économique de 2008, quand on pense à Detroit, par exemple. Donc là aussi, c'est des formes de nostalgie qui finalement reviennent au concept initial, mais l'éloignement géographique n'est pas forcément là, mais c'est plus un éloignement tout en étant sur place. Donc, on ne sait plus où est-ce qu'on est chez soi. C'est un peu la question que Barbara Cassin posait d'ailleurs dans son livre sur la nostalgie, quand est-ce qu'on est enfin chez soi. Voilà, donc j'espère que ça répond à peu près à votre question très pertinente.
Absolument, c'est très intéressant. Mais c'est déjà le temps de prendre une petite pause. On va plonger à fond dans la nostalgie avec Moonweaver, la chanson emblématique de Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn. À tout de suite. You heart
breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.
La radio qui t'aime. Mais à 2 mètres de distance, OK, là?
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Dungeon Master, le nouvel album de Gus & Gohorn, disponible partout dès le 29 avril via Secret City Records. Ne manquez pas le spectacle de lancement de l'album au Scanner le vendredi 6 mai prochain dès 21h. Les billets sont en vente dès maintenant pour Gus & Gohorn en spectacle au Scanner le 6 mai prochain. Une présentation de Chiz 94.3, Secret City Records et Blue Skies Turn Black.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
À la recherche de recommandations de séries, de films, de jeux vidéo et de tout ce qui touche le divertissement, rejoignez Anthony et moi-même qui ferons des critiques et des recommandations en plus de capsules d'actualité. Salut Anthony.
Salut Pierre-Olivier.
Prêt pour cette saison?
Absolument. Deux gars qui critiquent leur fin de semaine vous attendent le mercredi à 10h sur Chiz 94.3.
Rebienvenue à 3100 secondes d'histoire. Nous sommes toujours avec M. Stéphane Leduc, commissaire associé de l'exposition Parachute, mode subversive des années 80, présentée au Musée McCord. Avant la pause, on parlait vraiment des débuts de la marque, donc d'abord au sein du magasin Le Château, puis qui progressivement là, s'exporte d'abord sur la rue Crescent, sur la rue Saint-Laurent à Montréal, et ça va aller beaucoup plus loin en fait. La griffe Parachute va sortir de Montréal, va partir par pratiquement la conquête là, de l'Amérique du Nord, ce qui est tout de même une trajectoire assez inhabituelle. Vous êtes de retour à 3100 secondes d'histoire pour une émission sur la nostalgie dans les médias en compagnie de Katharina Niemeyer. Donc, Madame Niemeyer, dans votre article, vous amenez la question de la spatialité, de la temporalité nostalgique. On en a déjà abordé un petit peu. Puis, on en vient à se demander, est-ce que la nostalgie est vécue par rapport à un passé individuel et à des expériences personnelles, ou est-ce que ça peut être collectif? Est-ce qu'on peut être nostalgique, en fait, d'une époque ou d'un lieu qu'on n'a pas connu?
Ça aussi, c'est une excellente question. Je vous remercie de la poser comme ça, tous les deux. Tout à fait. Alors, il y a... La possibilité, comme j'ai dit tout au début, la nostalgie, quelque chose qui peut être vécu individuellement sur le plan psychologique. Mais je pense quand même toujours à Maurice Halbwax qui dit « on ne se souvient jamais seul ». Donc même si on est seul et on se souvient, ben, il y a toujours les autres qui sont autour d'une façon ou d'une autre, même que ce soit dans notre imaginaire. Mais c'est quelque chose parfois qui justement, ben, qu'on peut vivre seul. Peut-être parfois vous scrollez votre téléphone, vous avez les fameuses suggestions de Facebook ou de Google ou d'autres qui en fait… s'enchevêtre un peu ou qui se mêle un peu de ce que vous devriez vous souvenir ou pas. Personnellement, ça me gêne toujours un peu. Je préfère des rappels moins automatisés. Donc ça, c'est peut-être parfois des moments individuels que l'on trouve, mais qui finalement relèvent aussi d'un collectif, là, parce que finalement, vous êtes amené à partager ce souvenir à nouveau en ligne et puis contribuer à la grande machine Facebook. Mais ça, on pourra en rejaser si vous voulez plus rentrer dans la question de critique de la marchandisation, de la nostalgie. Puis un autre élément, évidemment la nostalgie plutôt collective ou de groupe, ça existe évidemment aussi, ben justement avec des collègues, on appelle ça aussi la nostalgie transgénérationnelle, qui quand on découvre en fait à partir justement de certaines productions médiatiques comme La Guerre des Étoiles ou la série télévisée Friends, où on voit en fait des interconnexions qui se créent, donc les parents qui re-regardent les mêmes émissions avec leurs enfants qu'eux, ils ont regardé. Donc, il y a aussi une forme de communication là, qui se met en place, mais aussi des nostalgies qui peuvent relever davantage du politique ou du passé. Une collègue, Amy Malek, qui est iranienne, travaille par exemple sur l'Iran et là aussi sur le déplacement, en fait, les personnes qui ont quitté l'Iran après la révolution, etc. Et puis, donc, et aussi des questionnements parfois qui relèvent aussi à nouveau, en fait, de cette question initiale quand on n'est plus chez soi et puis parce qu'on a dû partir. On le voit actuellement de façon très tragique avec l'Ukraine, avec les 4,5 millions de personnes là, qui sont parties. C'était le chiffre que j'ai vu ce matin. Et là, on parle juste des personnes qui ont quitté l'Ukraine, qui ne sont pas juste à l'intérieur de l'Ukraine, le mouvement est plus grand. Et là aussi, y a déjà différentes formes de nostalgie malgré la tragédie du présent qui sont là parce que c'est un arrachement en fait à la terre natale et là où on se sent chez soi, où on a créé des familles, etc. Donc là aussi, la nostalgie collective peut émerger, surtout quand il y a eu des traumatismes de guerre ou tout simplement aussi des changements historiques flagrants ou politiques quand on passe d'un régime peut-être davantage plus démocratique à totalitaire. Et puis, bon, évidemment, la nostalgie est toujours aussi un peu celle des autres. Je me souviens toujours de la phrase de Lou Reed qui disait « Je n'aime pas la nostalgie à part si c'est la mienne ». Bon, j'ai traduit de l'anglais, là. C'est aussi évidemment une question de perspective. Qu'est-ce qu'on entend par nostalgie créative, par exemple? Et puis, l'autre question que vous avez posée par rapport à est-ce qu'on peut être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas vécue, je dis oui, très clairement. Je pense que c'est à chaque génération ou chaque période, c'est pas quelque chose qui est propre à aujourd'hui, qu'on peut observer en fait une fascination pour le passé qui est souvent idéalisée, on s'entend. De se dire « Ah, ben, j'aimerais ça justement dans Last Night in Soho, dans le film, le personnage principal revit en quelque sorte Londres des années 60, 70, de la façon dont elle aurait aimé que sa mère aura pu les vivre. Donc, il y a une imagination en fait du passé qui, dans son imaginaire, elle y retourne aussi. Donc, il y a une nostalgie en fait de cette époque qu'elle vit très clairement, qu'elle n'a pas vécue. Ça peut être une nostalgie très, très authentique, pas du tout artificielle. Je me souviens que je m'étais un peu disputée à un moment donné dans un colloque avec un collègue qui disait « Oui, non, mais ça, c'est de la nostalgie artificielle, etc. » Je dis non, je ne suis pas d'accord parce que justement, les jeunes qui sont actuellement, surtout avec la pandémie, voire même avant, voient que justement, il y a l'éco-anxiété, donc la solastagie, des règlements climatiques, les guerres en cours plus la pandémie. Ben, on peut très bien comprendre que parfois, ça peut faire du bien de se réfugier ailleurs et penser que c'était mieux avant, même si ce n'était pas le cas. Mais d'être nostalgique, en fait, de quelque chose qu'on n'a pas vécu, ça peut être un sentiment vraiment authentique, comme il peut être aussi juste ludique et amusant. Hein. Donc, c'est ça un peu cette double facette de la nostalgie. Donc, ouais, pour répondre comme ça à votre question. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou réagir.
Ben, oui, c'est parfait. En fait, vous parlez de la nostalgie chez la jeune génération. Puis, avec les réseaux sociaux, on voit les filtres sépia sur Instagram, ceux qui collectionnent les vinyles, les appareils photo instantanés, tout ça. Puis dans votre article, vous parlez de la technostalgie. Je me demandais qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, puis comment ça s'explique?
Oui, tout à fait. Ça me permet de détailler un peu plus ce que je disais tout à l'heure par rapport au rétro gaming, par exemple. La technostalgie, c'est en fait une notion sur laquelle on réfléchit dans les études médiatiques de différentes façons. Donc, il y a différentes façons de l'aborder. Donc, la première définition serait de dire qu'on est vraiment nostalgique d'une technique qui soit n'existe plus ou qui est devenue obsolète ou voilà, qui est là, mais qui n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Donc, on peut, par exemple, penser justement au rétro gaming, que voilà, justement, les jeux vidéo ou même les consoles de l'époque sont difficilement accessibles, coûtent de plus en plus cher, d'ailleurs, si on peut les avoir à nouveau. Et donc, il y a vraiment un engouement, en fait, pour le fonctionnement technologique, d'une part. Donc, ça fait partie de cette technostalgie-là. On pense aussi aux Tamagotchi qui sont revenus. Donc, les anciens valent beaucoup plus que les nouveaux qui sont recréés. Polaroid aussi s'est remis dans le move. Puis même, je pense que c'était Nokia qui avait ressorti aussi un de ses téléphones emblèmes, en fait. Voilà. Donc ça, tout ça se relève d'une certaine forme de technostalgie, mais qui peut être donc soit aussi à nouveau marchandisée, et elle l'est très clairement, mais elle peut aussi relever justement du souhait de ne pas oublier les anciennes technologies. Et je le voyais dans un cours que j'ai donné à l'automne 2020. Finalement, il y avait beaucoup d'étudiants qui justement avaient des vinyles à la maison, des caméras, des appareils photos et tout ça d'une ancienne époque pour vraiment explorer en fait aussi la matière. Donc je pense que peut-être cette technostalgie-là émerge aussi, c'est pas juste chez les jeunes, non, c'est aussi chez les amateurs de cinéma qui aiment ça en fait tourner voilà, avec des vieilles caméras, je le dis entre guillemets évidemment. Donc je pense que c'est quelque chose qui relève aussi d'un souci qui est en lien avec la matière. À savoir qu'on a l'impression qu'avec le numérique, tout est dématérialisé. Ce n'est pas faux. Bah, je souligne quand même toujours qu'il y a une écologie du smartphone, mais aussi voilà, d'Internet. Il y a des serveurs qui doivent être refroidis quelque part dans le monde. Il y a des câbles. Et nous-mêmes, on est sur des ordinateurs. Donc, ce n'est pas complètement dématérialisé. N'empêche que beaucoup de choses se trouvent dans cet espace numérique qui ne sont plus de la matière et qui nous sortent aussi de l'espace. C'est-à-dire, si on est sur l'écran tout le temps, l'expérience avec les choses et les objets n'est plus la même. Donc, je pense que cette technostalgie relève aussi d'un souhait parfois de ralentir, de redécouvrir des technologies, de les comprendre et de se connecter autrement dans l'espace. Et là, on revient en fait un peu à la base, encore à l'origine de ce que je disais tout à l'heure sur ce que ça veut dire la nostalgie. Et la technostalgie, elle peut être donc pour l'analogique, mais aussi pour le numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, il y a beaucoup de forums sur Internet qui... Il y a des personnes en fait qui disent « Ah, ben, je suis vraiment nostalgique des premiers temps du web, les blogs qui existaient, du MySpace, le premier Messenger, les premiers gifs animés, etc. » Donc, il y a là aussi une confluence un peu de... on voit que le temps est passé et pourtant, c'était déjà en fait des objets nativement numériques pour la plupart. Donc, il y a quelque chose aussi là, une mouvance qui se met en place. Mais quand on regarde de plus près ces expressions nostalgiques-là, que ce soit pour l'analogique ou numérique, et je ne séparerai jamais trop les deux d'ailleurs, c'est vraiment aussi les souvenirs qu'on a de ces moments-là, en fait, et des rituels partagés en famille, les histoires qui se sont créées, etc. Et comme je dis parfois un peu ironiquement au groupe d'étudiants, je dis, je ne sais pas de quoi vous allez vous souvenir plus tard. Est-ce que ça va être le message Facebook que tu as écrit un jour à quelqu'un ou peut-être une lettre importante que tu auras pu adresser? Bon, c'est un peu relatif aussi, là, je ne suis pas du tout technophobe, au contraire, mais une petite sensibilisation pour ces questions-là, parce que finalement, c'est aussi une variété d'objets techniques qui disparaît en fait avec le numérique, et ça, ça pose un problème pour l'industrie, mais aussi pour la variété en fait et l'hétérogénéité en fait des formes d'expression et de communication autour de nous. Voilà. Donc, je pense que ça donne déjà une petite idée de la technostalgie. C'est beaucoup plus intense encore, mais voilà. Vous me dites si ça convient comme réponse.
Oui, c'est parfait. Puis, ça nous aligne aussi vers notre prochaine question, puisque vous avez évoqué une forme de nostalgie, de technostalgie qui est très liée aux objets, qui est très liée à la matérialité, puis à des objets qui sont authentiques. On peut penser à des images d'archives, à des artefacts, dont la console rétro. Mais il y a également une nostalgie artificielle, si on veut, une nostalgie qui est volontairement fabriquée. Puis, on se demandait justement, qu'est-ce qui caractérise cette espèce de faux vintage-là et quels sont ses effets sur l'imaginaire collectif, sur les représentations qu'on se fait de l'histoire?
C'est une excellente question aussi, merci. Ben, il y a différentes choses là à dire. Comme je dis tout à l'heure, quand on n'a pas vécu une époque, on peut quand même authentiquement être nostalgique parce que ça appartient à chacune et chacun de sentir sa forme de nostalgie. Ça, c'est quand même une question individuelle. Mais la nostalgie fabriquée à laquelle vous faites allusion, ben là, je pense que c'est le moment pour parler de la marchandisation d'une part, mais pas uniquement, aussi de la politisation, à mon sens. Créer l'artifice ou du fake vintage ou faux vintage, comme on l'appelle, ça ne veut pas dire que la nostalgie ne peut pas être authentique. Mais ça peut poser un problème par rapport à l'écriture de l'histoire et la façon de voir l'histoire. C'est ça, je vais rebondir par la suite. Ce qui peut être important à retenir, c'est que c'est justement souvent que le fake vintage, il va être moins cher que le vrai vintage. Quand on regarde l'histoire justement du vintage, c'est à la base d'ailleurs pas du tout lié ni à la nostalgie ni au passé. C'était vraiment, ça venait du vin et des vendanges. Donc on vient parler aussi de nourriture donc et de boissons. Et ça désignait en fait véritablement un cycle de la récolte en fait viticole. Qui se référait en fait au vin qui était bon à ce moment-là, et puis plus tard ça devenait en fait ce qu'on appelle les fameux vintage, puis on rentrait dans un cycle en fait temporel qui pouvait être un avant et un après, et bien à ce vintage de cette époque-là, etc. Puis c'est vraiment au courant après du 19e, 20e siècle, voire même après la Première Guerre mondiale, que la notion de vintage aussi là est plus rapprochée à la question de la nostalgie, l'authenticité. Mais auparavant, ça se référait vraiment à un produit, donc plutôt un produit économique, bon, d'abord le vin, mais aussi à des moteurs de voitures et autres qui étaient décrits là au 18e, 19e siècle. J'étais allée une fois dans l'archive à la Bibliothèque nationale de France là, pour voir d'où sort ce mot, en fait, vintage, comment il est lié, pour comprendre justement, ça tombe bien, parce que comme ça, je peux un peu vous répondre à votre question très pertinente. Et de voir que finalement, ben, le vintage, c'est vraiment quelque chose qui d'abord pas du tout esthétique, mais qui se réfère à un produit de qualité qui perdure dans le temps. Et ça me permet de répondre que d'une part, un vrai produit vintage, il voyage dans le temps. J'ai appelé ça une ruine qui voyage en fait dans le temps, où on voit les traces du temps qui étaient laissées, ou justement, quand on pense aux antiquaires, chaque objet vintage a aussi une histoire. Donc, il y a toujours ce récit. En fait, qui s'y transportait, c'est XY qui possédait cet objet, puis après, il a atterri là, puis on l'a un peu restauré. Donc, la valeur, en fait, symbolique, mais aussi marchande de l'objet vintage augmente. Donc, quand on crée du fake vintage, c'est souvent une imitation. Mais par contre, ça ne veut pas dire que si le produit est bien fait, d'un point de vue du processus, d'un point de vue des matériaux employés, il peut devenir plus tard aussi un produit vintage. Parce qu'il va perdurer dans le temps. Donc, c'est un peu une ambiguïté, là. Donc, j'ai mis, évidemment, la plupart des produits qui nous entourent, là, je parle des objets du quotidien, sont l'obsolescence programmée, comme on connaît très bien. Donc, le fake vintage, souvent, en fait partie. Mais ça veut à nouveau pas dire que les personnes qui s'attachent à leur objet, voilà, on va pas dire que pour le coup, la nostalgie est forcément inauthentique, mais je dirais plutôt justement que c'est l'industrie qui souvent va utiliser ce sentiment-là, qui savent qu'ils peuvent éventuellement provoquer pour créer leurs objets, puis là, on est dans la marchandisation. Et un autre problème, vous avez parlé de la question de par rapport à l'histoire, peut-être une vision qu'on peut avoir de l'histoire. On a récemment, en fait, avec Emmanuel Fantin, qui est maître de conférence à la Sorbonne à Paris, et puis Corinne Defresne-Delière, qui est étudiante à l'UQAM et aussi membre du CELAT. Toutes les trois, on a travaillé sur la fameuse vidéo d'Éric Zemmour qui a été publiée en novembre 2021, qui a eu quand même des millions de vues. Et je ne sais pas si vous l'avez vue, mais vous vous imaginez cette vidéo, en fait, qui dure 10 minutes. Il y a plus que 300 plans, c'est extrêmement rapide, où on voit un pastiche, en fait, un méli-mélo d'images d'archives, des journaux télévisés, de films de fiction. Et puis, on voit aussi des images amateurs. Donc, c'est complètement décontextualisé. Donc, par bribes, on arrive à reconnaître à peu près à quoi ça peut se référer ou pas, à quelle production ou à quel film ou à quel journaux télévisé ou à peu près aussi d'historicité. Et Zemmour se pose, en fait, dans cette vidéo, déjà comme un président avec un vieux micro vintage, justement. Et derrière lui, il y a des livres. Donc, c'est vraiment une image de président qui s'adresse à la nation, très classique. Et puis, il est dans une forme de déclinisme, en fait. Donc, il introduit, il s'adresse même en disant « Imaginez-vous vos enfants qui rêvent d'une France qu'ils n'ont jamais vécue. » Donc, on est dans cette idée de l'appel, en fait, d'une nostalgie, justement, provoquée et puis d'un passé idéalisé. On sait très bien que dans les années 60, le droit des femmes n'était pas du tout encore ce que c'était aujourd'hui, etc. Donc, cette idéalisation à nouveau du passé. Et après, c'est le déclin à cause de l'immigration, etc. On parle même pas d'environnement dans la vidéo. Donc, le déclin total de la belle France, de la France glorieuse, pour en fait lui-même après se présenter comme sauveur. Et là, ce qui se passe en fait, c'est on est dans un registre de discours qui entre entre en fait la publicité, un clip publicitaire, une vidéo de musique, une campagne politique, plus quelque chose qui est un pastiche historique, carrément série télé de générique. Et là, on est complètement dans une distorsion historique qu'on peut trouver d'ailleurs dans les discours aussi de certains hommes et femmes politiques en contexte électoral. Mais là, ça te pousse à l'extrême. Et puis là aussi, on voit que finalement, le vrai vintage, c'est-à-dire c'est des sources réelles là qui existent, hein, il a pas lui-même créé des sources, mais des sources, on abuse d'elles pour réécrire l'histoire autrement. Et là, justement, cet appel à la nostalgie peut être extrêmement dangereux et réactionnaire et régressif. Et on est dans ce que Svetlana Boym appelle justement la nostalgie restaurative. Donc, de vouloir créer le passé tel qu'il a été. Je dirais que c'est même pire. C'est pour ça qu'on a appelé ça la nostalgie réactionnaire, parce que le passé n'a jamais été aussi parfait que l'on pense qu'il était. Voilà. Donc, c'est ce que je reprends un peu là, deux directions différentes, médias et politiques, mais c'est important de le souligner.
On prend une petite pause musicale et on vous revient très vite. On y va avec In My Life des Beatles. Bonne écoute. De retour à 3100 secondes d'histoire, c'est déjà le moment du dernier segment avec notre invité. Donc, désormais, vous l'avez dit, c'est pas rare que les institutions médiatiques s'emparent du passé, voire de leur propre passé, pour le mettre en scène. Puis, j'aimerais savoir de quelle manière s'exprime cette nostalgie institutionnelle, là, puis quels sont les effets de ça sur le paysage médiatique contemporain.
Bah là aussi, voilà, justement, ça renvoie un peu à ce que j'ai appelé tout à l'heure la nostalgie programmée. Donc, merci pour la question. Ça permet d'aborder encore une autre dimension, en fait, de la nostalgie. Bah, on la voit, par exemple, si on regarde Radio-Canada, qui met en valeur beaucoup ses archives, ce qui est une très bonne chose. Elles deviennent un peu plus accessibles. Mais même les émissions, hein, que l'on voit ces dernières années, il y en a beaucoup qui s'appuient sur le travail d'archives pour réinventer en fait des actrices et acteurs. Donc il y a un peu une célébration de son propre passé. Mais ça va de pair malheureusement avec le fait que il y a beaucoup de documents aussi d'archives qui sont inaccessibles aux chercheurs, par exemple, ou de plus en plus le patrimoine en fait ou matrimoine, voilà, disons donc les deux. De Radio-Canada, par exemple, sont en perte. Donc, il n'y a pas tout qui est sauvegardé. Donc, il y a un double penchant aussi. Donc, l'importance je pense aussi de mettre en valeur les archives, en fait, pas juste de Radio-Canada, hein, c'est aussi d'autres médias, en fait, que ce soit la presse et par ailleurs, peu importe dans le monde, l'importance, en fait, de garder les traces et de garder les enregistrements pour pouvoir justement mieux saisir à l'histoire qu'on écrira un jour. Et justement, les sources médiatiques en font clairement partie, même si c'est pendant très longtemps, justement, pour les historiennes et historiens, les médias n'étaient pas une source véritable à cause des questions d'auteurs et documentation, etc. Mais ça a quand même un peu changé ces dernières années. Donc, cette nostalgie programmée-là, donc on l'observe donc dans les institutions médiatiques. On l'observe aussi parfois dans les musées qui ressortent peut-être des collections qui n'étaient pas trop affichées, qui peuvent être accessibles en ligne, mais qui ne sont pas forcément exposées sur place. On peut aussi l'observer dans les entreprises, par exemple. Donc, j'ai une collègue actuellement qui en Suisse travaille sur les archives de Nestlé. Donc, parfois, il y a aussi des entreprises qui, comme ça, en quelque sorte, vont créer, en fait, écrire leur propre histoire à partir d'archives, donc de cette accumulation-là, et en faire une exposition. Et puis, ce qui est intéressant, malgré tout là-dedans, c'est que, il y a d'une part une volonté, en fait, de se donner aussi une crédibilité à long terme. Et ça, ça manque parfois peut-être aux jeunes entreprises en question. Donc, c'est en fait se donner un gage d'authenticité aussi. Mais c'est pas toujours prédominant là. C'est pas forcément uniquement la nostalgie programmée. Là, on est plus aussi dans les questionnements, justement, d'archives et de montrer des différentes collections, etc., ou de ressortir justement des pièces d'archives. Mais dans cette numérisation, le goût en fait de l'archive numérique ou télévisuelle, je peux vous renvoyer aux travaux là, de Claver et autres qui travaillent sur ça. Si ça vous intéresse, les historiennes, historiens, mais aussi les gens en communication qui travaillent un peu dans une perspective historique. On a vraiment, avec le numérique, un engouement pour les archives qui est en train de monter. D'une part, pour valoriser et sauvegarder en fait des sources du passé, mais aussi pour se réfléchir quelles seront les archives du futur, qu'est-ce que les archives peuvent faire dans le futur, et aussi dans une perspective justement de décolonisation épistémique et autres, qu'est-ce qui doit être fait pour justement garder aujourd'hui aussi trace de tout ce qui se passe, pour peut-être éviter que parfois les histoires sont racontées en fonction d'une institution ou d'un État ou d'une politique en cours, qui là justement ça tombe bien parce que j'ai sur mon bureau le livre de Trouillot, Silencing the Past, Power and the Production of History. Donc je pourrais essayer de le traduire, je pense qu'il n'est pas traduit en français, mais là si on veut faire rendre silencieux le passé, le pouvoir et la production de l'histoire, où là aussi il montre justement cette importance-là, que finalement il y a aussi, je pense que ce qui se passe quand même avec une certaine forme de nostalgie institutionnelle ou programmée peut parfois permettre quand même de se poser aussi la question de est-ce qu'on peut écrire l'histoire autrement, ou en tout cas contribuer à revoir le passé. Et je pense là au travail aussi de David Leventhal, The Past is a Foreign Country, donc de vraiment voir le passé comme un pays étranger. Qu'est-ce qu'on peut donc en faire quand on y retourne? Donc là, il y a peut-être aussi un travail de nostalgie créative à faire. On ne peut pas vraiment retourner dans le passé, hein, on le sait très bien. Parce qu'on est dans une machine du temps, on verra bien si ça arrive un jour. Mais par contre, il y a des façons de revoir le passé. Et là, la nostalgie créative peut, en fait, ou réflexive, comme dirait Svetlana Abraham, peut aider aussi à concevoir l'histoire, en fait, peut-être dans une perspective future autre, tout en la recontextualisant. Donc,
Parfait, merci beaucoup pour votre réponse. Puis, on arrive à la question qui est inévitable. Tout à l'heure, vous avez parlé de la manière dont les réchauffements climatiques, dont les problèmes sociaux de la société contemporaine pouvaient mener à modifier le rapport à la nostalgie. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la pandémie de COVID-19 là, qu'on vit depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, de quelle manière est-ce que la pandémie a transformé notre rapport à la nostalgie? Et est-ce qu'il y a d'autres épisodes de crise comme ça dans l'histoire qui auraient été marqués là, par un retour aussi marquant vers justement le passé, vers la nostalgie?
Oui, merci pour cette question. Oui, je pense qu'il y a quand même, avec le dérèglement climatique, la solastagie, ça fait quelques années que l'éco-anxiété est présente. Ce qui peut être avec la pandémie, je pense pas que ça ait changé de quoi par rapport à une redéfinition, une nouvelle conceptualisation de l'anostagie, mais ce que la pandémie a montré, que finalement la nostalgie demeure, comme Svetlana Boehm l'a dit, vraiment un moment en fait qui peut émerger en temps de crise et de pseudo-progrès. Donc là, en l'occurrence, c'était évidemment la question d'une crise très intense. Puis au début de la pandémie, justement, des entreprises là comme Facebook Oh là, c'est, ben, il y a, sur Facebook, il y avait eu ce, partager vos photos d'enfance, etc., les photos du passé. Donc, parce que justement, peut-être ce dont on a pu se rendre compte avec la pandémie, et peut-être en ce sens-là, ça a créé peut-être une, ou fait ressortir une partie de la nostalgie que nous, des personnes très gâtées, où il n'y a pas de guerre, même s'il y a des dérèglements climatiques et tout autre problème sociaux, mais on vit quand même, on est quand même chanceux et chanceuse de vivre où on vit, qu'il y ait cette prise de conscience que le présent, il stagne. Donc, on pouvait en fait ne pas vraiment vivre ce qu'on avait prévu de vivre. Et bon, moi, je dis ça, je suis plus âgée là que vous, vous êtes aux études. Donc, moi, j'ai beaucoup pensé justement aux étudiantes et étudiants où tu as un tout autre rapport au temps. Et puis finalement, ben, quand on avait planifié à l'année prochaine, j'allais faire ça, j'allais voyager là, j'allais faire ça, un stage ici. Plus ça rajoute le stress, beaucoup d'anxiété aussi. Et dans ce contexte, en fait, le présent qui stagne est extrêmement douloureux et difficile parce qu'on n'a juste pas l'habitude de ça. Et puis là, évidemment, la nostalgie peut aider en fait à surmonter cette crise-là. Et là, vraiment, ce qu'ont montré les psychologues de Southampton, dont j'avais parlé tout à l'heure, il y a vraiment une force plutôt constructive de la nostalgie qui permet d'être un peu un remède. La nostalgie en tant que telle, déjà d'être un remède, mais les médias aussi, pour voilà, se sentir bien à un moment donné, on rentre dans une bulle. Et ça n'a pas juste besoin d'être les séries qu'on regarde sur les plateformes, mais ça peut être aussi un livre ou un morceau de musique ou autre, parce que tout simplement, on n'avait plus le contrôle sur son temps. Et je pense que là, peut-être, ça a créé un peu quelque chose comme une... J'ai appelé ça stagnation, mais c'est simplement aussi que l'expérience du temps présent n'était plus la même et l'anticipation de l'avenir non plus, puis elle n'est plus complètement non plus. Là, on n'est pas encore à 100% dans une normalité, plus les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Mais peut-être aussi pour avoir une petite piste d'espoir là-dedans, je pense que ça a toujours existé pour revenir quand même avec une question dans l'histoire. Donc après, il n'y a pas des, on peut pas faire des études comme aujourd'hui sur le 16e siècle parce qu'on n'a pas les sources forcément vernaculaires sur. Voilà, on peut être dans la littérature ou autre, mais voilà, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, pour les dernières guerres, par exemple, ou toute forme de guerre, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, la nostalgie émerge à un moment donné. Sauf que peut-être avec la pandémie, elle était vraiment là au temps présent parce que. Voilà, on est chez soi, mais en fait, on n'est pas vraiment nulle part. Donc il y avait un peu ça avec le confinement. Et que finalement, c'est le monde qui venait à nous, l'expérience, mais tout passait par l'écran. Parce que voilà, il n'y avait plus une autre expérience sociale possible. Puis ça m'avait amené justement dans un cours de bac à l'automne 2020, et je salue les étudiants et étudiants si personne n'écoute, qui est dans un cours introduction en théorie de la communication médiatique. Il y avait une centaine d'étudiants dans ce cours, presque 150 je pense. Et puis le travail final était en fait de se déconnecter pendant 24 heures de tous les médias électroniques. Incluant jeux vidéo, tout ça, et puis après de faire un récit d'expérience, et c'était pour apporter une bonne, quelque chose de positif aussi, ce qui peut avoir la nostalgie dans ce temps-là, c'était finalement des récits très personnels auxquels je ne m'attendais pas, parfois même très intimes, qu'on peut d'ailleurs découvrir sur Internet si ça vous intéresse. Ça s'appelle 24 heures. déconnecté.ucam.ca. Donc un projet qui a abouti en fait finalement, paradoxalement, n'est-ce pas, la déconnexion amène à la reconnexion, de partager en fait ces récits-là. Et le projet s'appelle Déconnecté d'ailleurs avec entre parenthèses, parce que finalement la plupart des récits montrent aussi quand on se déconnecte, on se reconnecte à autre chose. Donc il y avait finalement là peut-être aussi une résistance un peu nostalgique que j'ai pu observer dans les récits, que je trouvais très intéressant. Et ça répond un peu à votre question aussi, qu'on pense toujours à les jeunes, s'intéressent ni au passé, s'intéressent à plus rien, puis ils sont de toute façon juste sur leur écran. Et puis à partir des récits, on pouvait vraiment voir aussi l'anxiété qui était là pendant la pandémie, et puis un peu ce futur suspendu, le présent sur lequel on n'a pas de contrôle, et puis aussi toute forme d'angoisse et de soucis de santé mentale qui peuvent émerger de là. Puis finalement, que la déconnexion a permis aussi à certaines personnes, c'était intéressant, de juste me dire ça m'a fait du bien parce que je me compare tout le temps en ligne à d'autres personnes sur Instagram, donc les représentations de soi, etc. Donc, Et puis finalement, là, c'est qu'il s'est exprimé aussi, et peut-être pour clore là, que justement, il y avait plusieurs personnes qui disaient, bah, finalement, j'ai pu, à ce jour-là, me reconnecter aux médias de mon enfance, où j'étais peut-être moins connectée, ou les personnes qui ont dit, ah ben moi, j'ai aucun souvenir de quand je n'avais pas un iPod ou mon téléphone, qui c'était la première fois que je pouvais vivre, en fait, l'époque que ça devait être quand j'ai vécu mes parents. Mais bon, c'était un peu à l'extrême aussi, parce que j'ai vraiment le droit à aucun média électronique, hein, comme la télévision à l'époque et tout. Voilà, donc c'était quand même une expérience intéressante. Je pense que la pandémie, en ce sens-là, peut amener aussi à des expérimentations ou expériences intéressantes si on travaille sur la nostalgie ou temporalité, etc.
Mais merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour ce soir. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Puis c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous d'un sujet qui est paradoxalement aussi actuel. Donc, je vous invite à aller consulter le site web de Katharina Niemeyer à knimeyer.net et à lire ses plus récentes publications. Si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission ce soir, elle sera disponible dans quelques minutes sur le site de Chiz et dès demain sur toutes nos plateformes en balado-diffusion. C'était Annie-Pierre Brunel et Alexandre Prince à l'animation et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accompagner dans ces capsules historiques. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens